dans les arcanes de la Maison Blanche, se décide l'opération à venir. Dragon Rouge. La tension, elle, atteint son paroxysme. Nous sommes le 24 novembre 1964. Il est 6 heures passées à Stanleyville, au Congo. Le soleil commence à poindre, alors que le ciel est constellé de parachutes en contrebas. Les militaires subissent un feu nourri. Le premier objectif est de prendre, puis de sécuriser l'immense aéroport de la ville, à l'arrêt depuis des mois. Sans le contrôle total des pistes, il sera impossible d'évacuer les civils. Plus encore, il sera impossible d'envisager un quelconque largage de matériel et de renfort. Les premiers hommes largués ont le destin de l'opération entre les mains. En contrebas, la jungle et les rebelles se sont réveillés. Des canons 12,7 mm anti-aériens chinois tonnent dans le ciel. Mais les Simba, rapidement, se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire. Se jettent sur eux Achille, Ulysse, Hercule. Impossible pour les rebelles de contenir la vague. L'ANC, qui les croyait immortels, aurait pu comprendre, en voyant cette scène, toute la force des paras face à cette rébellion incapable de résister à l'assaut. Le colonel Laurent ne perd pas de vue son objectif. Sécuriser la zone en premier lieu, en venant à bout des canons DCA présents tout autour des pistes. Mais après, comment faire pour localiser les otages dans l'immensité du périmètre? C'est là que l'histoire, celle avec un grand H, tend parfois une perche à ses héros. Un événement qui pourrait paraître anecdotique, mais qui, en l'espace d'un instant, peut tout faire basculer. Un capitaine de la 11e compagnie, qui se trouve non loin du cœur de l'aérogare, entend une sonnerie persistante, celle d'un combiné téléphonique. Instinctivement, il le décroche. Au bout du fil, un missionnaire. Les otages se trouvent enfermés à l'hôtel Victoria, alors faites vite! Lorsque lui parvient l'information, le colonel Laurent n'en croit pas ses oreilles. La voie est ouverte. La cohorte doit maintenant s'organiser afin de tenter l'impossible. Sauver les otages en danger. Coup de chance que ce coup de téléphone. Stanleyville compte 200 000 habitants et serait donc immense à fouiller sans indication précise. À l'apogée des tensions précédant l'opération Dragon Rouge, différents camps militaires ont été implantés par les rebelles afin d'y garder les hommes prisonniers. Le plus grand d'entre eux est le camp militaire Kételé, qui regroupe des centaines d'otages. Privés des besoins les plus élémentaires, ils se battent pour obtenir de l'eau qui manque cruellement. Dans l'hôtel des chutes, dans lequel ils sont enfermés, les femmes et les enfants sont parqués dans de petites chambres. Ils s'y retrouvent parfois bloqués à 8 ou 9 personnes. Des femmes y sont violées par des Simba, à la cruauté sans cesse exacerbée. Depuis le 20 novembre, alors que le président du Kenya a collé la pression aux rebelles, les hommes ont quitté les camps de prisonniers et tous les otages ont été entassés à 10 par chambre dans le plus grand hôtel Victoria. Face au parachutage et à l'avancée des soldats, les rebelles décident de sacrifier leurs otages. En réalité, l'ordre n'est pas une surprise. Début novembre, le général Olenga avait annoncé à ses hommes dans une communication officielle que si une intervention extérieure devait avoir lieu, alors elle devait être suivie d'un massacre des otages. Le temps, donc, presse. C'est le moins que l'on puisse dire. La 13e compagnie prend le lead, alors même qu'un de ses membres est originaire de la ville. 3 kilomètres séparent l'aérodrome de l'hôtel. Chaque minute compte. Pour atteindre leur but, ils auront besoin de 30 minutes. Arriveront-ils à temps? Rien n'est moins sûr. Dans les chambres de l'hôtel Victoria, c'est la cohue. Des rebelles sont entrés, vocifèrent et rassemblent tout le monde à l'extérieur. Certains résistent, se barricadent dans les appartements. Ils passent entre les gouttes. Mais pour la majorité, l'aube qui se lève est empreinte de terreur. Les Simbas, pagne-plumes et peintures guerrières sur le visage, sont plus menaçants que d'ordinaire. Patrick Nothomb tente bien d'intercéder. Il est rejeté manu militari. Et colonne par quatre, menée par le colonel OPP, bras droit du général Olenga absent, les prisonniers se dirigent vers un lieu qui leur est inconnu. Pas pour longtemps. OPP n'est pas Olenga. Patrick Nothomb a toujours réussi à amadouer ce rebelle, ancien des forces armées gouvernementales. Face aux plus de 200 otages, OPP prononce ces quelques mots. Nous allons nous diriger vers vos frères parachutistes. Comme ça, s'ils veulent nous tuer, ils seront obligés de vous tuer d'abord. Mais il ment. En réalité, il sait qu'il emmène les ressortissants vers la mort. Les parachutistes, tout près, échangent le moins de coups de feu possible. Leur but est de tirer les otages d'affaires, pas d'entamer une action armée. Leur course est rapide, folle. Dans les cœurs résonnent les battements des secondes qui filent, fauchés par Cronos. Les rebelles s'excitent. Les plus zélés réclament qu'on abatte immédiatement Nothomb. OPP fait barrage, indiquant qu'il se porte garant de la vie de son otage. Mais ces hommes se rebellent et font asseoir les otages. Les paras progressent. C'est la panique. Dans la cohue, certains Simbas se mettent à tirer, fauchant les vies comme les blés d'été. La première rafale achevée, les cris résonnent entre les ruelles. Les blessés se pressent les uns contre les autres. L'odeur âcre des tirs monte au nez et les armes, inlassablement, sont garnies de balles de nouveau. Elles ne tarderont pas à semer la mort. Parmi les survivants, un jeune homme, derrière l'écran de fumée, croit deviner une présence, là, non loin de la ruelle. Il ne se trompe pas. C'est un paracommando, un Belge. La plupart des survivants, en as, s'est réfugié derrière des arbres ou des maisons. C'est le sauve-qui-peut. Les militaires qui sont passés par l'avenue Grison découvrent le massacre, arrivant à peine trop tard. Le colonel Laurent décide alors de former un périmètre de sécurité afin de s'occuper des morts et de prendre en charge les blessés. On cherche à rassembler les survivants aussi et à les diriger vers la zone d'évacuation. Des dizaines de corps jonchent le sol, dont celui du docteur Carlson, condamné à mort par la vindicte rebelle. Le colonel Laurent est en communication constante avec le colonel Van de Waal, qui entre avec sa colonne de l'Homme Gang à 10h30. La jonction est faite. Retardée par plusieurs embuscades, la colonne au sol a été victime de nombreux pièges tendus. Elle s'en est finalement sortie, non sans mal. Plus rien ne peut dorénavant arrêter la suite des opérations d'évacuation. Les images du moment du sauvetage, dont certaines sont entrées dans la postérité et les mémoires, sont d'une incroyable émotion. Les enfants dans les bras des parachutistes, les larmes des civils tombant et littéralement rattrapés par les sauveurs venus du ciel et de la route, c'est le grand soulagement qui s'opère. Mais si les militaires et les personnes secourues pensent être tirés d'affaire, ils se trompent. Les 3 kilomètres parcourus à l'aller, il faut les faire dans l'autre sens, pour regagner le tarmac et les avions. Le colonel Laurent le sait pertinemment. La victoire est encore loin d'être assurée. 4 novembre 1964, au cœur de la matinée. Sur le retour vers l'aéroport de Stanleyville, le colonel Laurent laisse son regard se porter sur la végétation qui l'entoure. Ici et là, des cris semblent indiquer que les rebelles n'en ont pas tout à fait fini avec l'équipe de sauvetage. Des flèches, des rafales volent à la manière de la pluie. La situation est loin d'être sécurisée à ce stade. Les blessés les plus graves, chargés dans les véhicules disponibles, sont conduits les premiers. Des militaires encadrent le parcours, tentent de prévenir tout débordement. La menace semble réelle. Une fois sur le tarmac, les militaires et les civils ne sont pourtant pas encore tirés d'affaire. Plusieurs centaines de rebelles se sont coordonnés. Aux abords de la piste, ils tentent de percer la ligne de défense installée par le commando. Le C-130 décolle, la carlingue parsemée de balles, depuis le cockpit jusqu'aux ailes. Il s'en est fallu de peu. Pourtant, la victoire a choisi son camp. L'héroïsme des Belges et des Américains finit par être récompensé. En 2 jours, 41 vols ont permis de sauver 1800 Américains et Européens et plus de 300 Congolais. Néanmoins, le bilan est lourd. 24 otages ont trouvé la mort. 2 militaires aussi. 12 sont blessés, plus ou moins sévèrement. D'autres victimes seront retrouvées les jours suivants sans qu'on puisse réellement en déterminer le nombre. Si la mission a permis de sauver de nombreuses vies, certains pays communistes se rebellent, évoquant un acte impérialiste. Che Guevara est le premier d'entre eux. Bientôt, des DC-6 belges se joignent à l'effort afin d'accélérer le flux des otages libérés au compte-gouttes. Le soir venu, nouvelle situation de crise. Les forces américaines peinent à retenir un nouvel assaut de 150 rebelles qui attaquent avec des mortiers et des snipers placés qui font des dégâts. Un officier perd la vie durant ces combats. Ainsi se termine l'opération Dragon Rouge, retentissant succès, offrant des lauriers aux paracommandos qui n'auront pas l'occasion de se reposer dessus. Les voilà, 2 jours plus tard, appelés à agir de nouveau. Cette fois, le nom de code de l'opération sera Dragon Noir. Nous sommes le jeudi 26 novembre 1964 à l'aube. Il est 6 heures. La similitude entre les deux missions dépasse de loin le nom de code des opérations. Si cette fois la cible est la ville de police, à près de 350 km au nord de Stanleyville, la mission est aussi celle de récupérer des otages nombreux et en danger au milieu d'une jungle quasiment infranchissable. Cependant, le danger est encore plus important ici. Les troupes ne peuvent plus compter sur l'effet de surprise. Les Simbas sont prévenus. Au sol, des mitrailleuses émaillent le ciel de leur fureur. La situation est critique. Pourtant, Dragon Noir est aussi salutaire que Dragon Rouge. Et pour cause. Isolés dans l'arrière-pays, de nombreux otages sont piégés dans la brousse et la végétation dense. Sans cette mission de sauvetage, ils sont condamnés à une mort certaine. Une fois au sol, de petits groupes motorisés se constituent. Des guides accompagnent les véhicules qui, efficaces, parviennent à mener à bien leur mission. Les Simbas, moins bien équipés, ne peuvent pas mettre à mal le bon déroulé des opérations. Malgré des tentatives répétées, ils ne mettent que peu en difficulté les soldats qui rassemblent à la hâte les otages. Pour permettre un repli des plus propres, les aviateurs américains ont fourni un élément technologique avancé permettant de simuler un tir de barrage. Derrière ce feu nourri et artificiel, les derniers paras peuvent se retirer sains et saufs. L'effervescence est totale, bien présente. Le colonel Laurent doit alors faire face à des sous-officiers qui demandent un engagement supplémentaire. Après tout, les rebelles cachent certainement d'autres otages à secourir autour de Paulis. Mais le ministre Spack a été clair. Sauver des vies, oui. Se mettre encore plus à dos la communauté internationale, il en est hors de question. Paulis sera donc le dernier raid des soldats du ciel qui rentrent immédiatement sur leur base arrière. Les jeunes zélés ont leur raison. De nombreuses communautés vivent dans le nord-est du pays, aux mains des Simbas. C'est notamment le cas à Watsa, où des religieuses sont à la tête d'une maternité. Tous espèrent un raid. Ils seront déçus. Les rebelles pris au dépourvu, mis au dos du mur, décident de réunir les Blancs présents dans la ville. Ils les conduisent non loin de la rivière Tibali, à 9 km des habitations. Des massacres terribles y sont alors menés. 9 religieuses, 6 missionnaires et d'autres Européens y perdent la vie, injustement. Fort heureusement pour les rescapés qui parviennent à s'échapper, des populations locales sont d'accord pour les cacher. Et alors que les Simba fouillent la zone à leur recherche, ils auront la vie sauve. Certaines voix s'élèvent alors. Et si des sauts supplémentaires étaient nécessaires? Mais Spack et Davignon s'en tiennent au plan de départ. Agir vite, sans froisser la communauté internationale. Si les paras sont repartis illico presto, la colonne de mercenaires Home Gang, elle, continue son action. Elle mettra au jour de nombreux massacres d'Européens sur la rive gauche du fleuve Congo, jusqu'à 40 km autour de Stanleyville. Home Gang ratisse et tente de délivrer celles et ceux qui sont encore en vie. Grâce à ces mercenaires, des vies supplémentaires furent sauvées, autant européennes que congolaises. Leur nombre peut aisément se chiffrer en milliers. L'ANC, elle, profite de ces troubles pour mettre à mal la résistance des rebelles. Rapidement, elle reprend le contrôle de la région. Van de Waal reste au contact jusqu'à l'étouffement des armées rebelles dans la zone, permettant à l'ANC de ne pas perdre pied à de nombreuses occasions. Ne nous y trompons pas. La présence de ces troupes non officielles est une volonté politique très claire de maîtriser les événements sans pour autant prendre position à la face du monde. C'est plutôt malin, faut bien le dire. Tant la guerre froide, au cœur des années 60, pouvait permettre aux influences communistes de gagner de l'importance en Afrique. Du point de vue américain, cela aurait été une catastrophe absolue, qui fut évitée de justesse donc. Le tout grâce aussi à l'action des mercenaires venus de Belgique. Le mémorial à Lumumba, lieu de terribles massacres, ne tardera pas à être détruit par les soldats de Mobutu, puis dynamité par les Belges. La situation de guerre civile dans le pays, en effet, va se tasser à compter de 1965, année durant laquelle Mobutu prend le pouvoir. Son mandat durera plus de 30 ans. Il n'oubliera pas de faire payer ses ennemis d'hier. Pierre Moulélé, par exemple, en exil après les événements de 1964, est encouragé à rentrer au pays. On lui promet l'amnistie. C'est la mort publique, terrible, qui l'attend. Là aussi, la décence m'oblige à vous en passer les ignobles détails. Si l'opération Dragon Rouge vous intéresse, je vous invite à consulter les images d'archives filmées par le journaliste de la RTBF, M. Frédéric François, qui courageusement accompagna la colonne de l'Home Gang dans sa progression. Sachez qu'il existe également un reportage extrêmement fourni en images et en témoignages d'acteurs de l'époque. Il s'agit d'un des numéros de l'émission « Ce jour-là », consacré aux opérations Dragon Rouge et Dragon Noir. La Belgique, elle, n'oubliera pas ses héros. Ils sont reçus à leur retour, le 1er décembre, en grande pompe, et défilent devant une nation fière, de la rue Royale jusqu'au palais de justice. Le ministre Spack, de son côté, est convoqué aux Nations Unies le 11 décembre. Les pays du bloc de l'Est s'insurgent alors, n'hésitant pas à qualifier la Belgique de pays impérialiste. Mais le ministre, justifiant l'envoi des troupes pour sauver les civils, se sort de cette situation sans trop d'encombre. C'est aussi grâce à son courage que de nombreuses vies ont pu être sauvées durant ces événements décidément bien particuliers. Voilà 60 ans que ces faits incroyables se sont déroulés. Des centaines de nos soldats s'y sont distingués, participant activement à faire de l'opération Dragon Rouge un modèle du genre, provoquant par là même un véritable retentissement au niveau international.